Chapitre 63. Après 20 minutes de départemental, ils avaient encore roulé 5 minutes au milieu de nulle part pour arriver au domicile de Stéphane Tronchet. Le psychopathe semblait chez lui, claquemuré. Une lueur faiblarde filtrait à travers les volets fermés de cette baraque aux airs de vieux postes de gare paumés. Toit en tôle d'amiante, façade de béton style bunker, elle offrait un accès direct sur les méandres de l'Oise d'un côté et sur une bande de végétation de l'autre. Une sorte de jardin tout en longueur, éventré par un chemin de caillasse sur lequel était garé le véhicule qui avait failli renverser Lucie. C'était donc bien leur homme. En tout cas, Tronchet avait préféré se barricader chez lui plutôt que de prendre la fuite. Geste qui signifiait que ce salopard les attendait de pied ferme. Il avait entendu les voitures, aperçu les phares. Il était au courant qu'ils patientaient là, dehors, et à l'évidence, la proie avait l'intention de leur montrer de quoi elle était capable. Cette fois, Charcot n'avait voulu prendre aucun risque. Vu le profil du Gus, hors de question de s'approcher à moins de 50 mètres. Avec son attrait pour les armes, le taré avait peut-être de quoi tenir un siège et savait viser. Les bouteilles retournées sur des piquets et les boîtes de conserve placées en pyramide le long du jardin indiquaient sans ambiguïté que le préparateur s'entraînait au tir. Pour les épauler, le chef de groupe avait sollicité une équipe de la BRI qui n'allait plus tarder à arriver. En attendant, les flics restaient hors de portée de projectiles éventuels, protégés de surcroît par l'obscurité. À plus de 3 heures, dans l'humidité poisseuse, ils accusaient tous le coup. Les os de Charcot étaient douloureux, ses chevilles gonflées, mais, comme les autres, l'adrénaline le faisait tenir. Pascal se frottait les mains et soufflait dessus.
« Je donnerai cher pour un café brûlant. J'espère que les gars vont bientôt se pointer et qu'on en finisse. »
« Et puis cette odeur sur nos fringues, » ajouta Lucie, « c'est abominable. »
Elle grelottait. Nicolas, lui, patientait dans l'une des voitures, côté passager, la fenêtre ouverte. Il écoutait du Nick Cave, espérant que les minutes s'écouleraient plus vite ainsi, la nuque posée contre l'appui-tête, se remémorant encore et encore cette nuit-là. Celle où, avec Audra, ils avaient planqué à la lisière du bois pour coincer ce salopard de nécrophile, bercé par cette chanson terrible, Henry Lee. Un quart d'heure plus tard, le vœu de Pascal fut exaucé. Le camion aux allures de Lego d'acier, frappé du sigle BRI, se rangea le long du chemin. 5 molosses en sortirent. Gilet pare-balles de 15 kilos, casque lourd, bouclier balistique, arme de poing et fusil d'assaut. À côté d'eux, Charcot et les siens paraissaient des promeneurs du dimanche. On les équipa donc avec du matériel plus adapté à la situation. Durant le briefing, le chef de groupe renifla l'air comme un chien de chasse.
« Cette drôle d'odeur... »«
Nos vêtements, » répliqua Charcot. « Je vous expliquerai. » Ils étaient en pleine discussion quand la porte de la baraque s'ouvrit.
« Allez vous faire enculer !»
Elle se referma dans un claquement sec la seconde d'après. Les hommes se mirent en formation immédiate à l'entrée du jardin. Aussitôt, leurs armes se braquèrent vers une silhouette qu'ils distinguaient au ras du sol. Elle se déplaçait au ralenti devant la maison, en zigzagant étrangement. Faisceau de lumière, souffle bloqué, doigts prêts à faire feu. Charcot se concentra, pas certain de bien interpréter ce que ses yeux voyaient.
On aurait dit un chien, court sur pattes, mais avec une tête qui n'était pas celle d'un chien.
L'animal se retrouva en tout cas sur l'allée de cailloux et après un bref arrêt se mit à courir dans leur direction en aboyant. Un bruit étouffé, comme si un chiffon lui obstruait la gueule. Il heurta un piquet, il semblait complètement aveugle, grogna et reprit sa course hasardeuse vers eux. Soudain, une détonation retentit, une flamme blanche qui surgit de derrière un volet de l'étage. La bête hurla, fit un roulé-boulé, propulsé par l'impact, et s'effondra à quelques mètres des policiers. Abattu par son propriétaire. Les flics se tassèrent derrière leurs planques. Les lumières puissantes des torches éclairèrent le corps couché sur le flanc. Il s'agissait bien d'un chien de petite taille, un bâtard, sauf que Tronchet lui avait recouvert la tête d'un masque de porc. Pas un truc de carnaval, non, mais un masque réel, fait de chair et de peau. On devinait les sutures, les cavités des yeux évidés et la mollesse du groin.
« Putain de taré !»
murmura Nicolas. Un des cinq hommes se positionna avec un fusil équipé d'une impressionnante lunette de visée. Dans la maison, toutes les lumières étaient à présent éteintes. Le forcené se tairait.
« Il nous le faut vivant !»
dit Franck à Mathieu Barnier, son homologue de la BRI.
« Vu ce qu'il vient de nous balancer, il ne se laissera pas prendre. Il s'est cloîtré ici en sachant qu'on allait rappliquer, il a buté son propre clébard. Le message est clair. Il veut en finir, mais peut-être en faisant un maximum de dégâts avant. S'il se met à arroser dans notre direction, on le shoot dès qu'on en a l'occasion. »
Franck regarda ses collègues. La peur avait remplacé l'excitation. Bouche pincée, regard verrouillé, aucun d'entre eux n'avait envie d'aller au casse-pipe. Leur rôle s'arrêtait là, c'était maintenant le job de la BRI. Charcot ne souhaitait pas faire intervenir un négociateur. En revanche, il insista auprès du chef pour tenter un dialogue.
« D'accord, je vous donne 5 minutes. Après, on entre. »
Charcot récupéra un mégaphone. Abrité derrière la porte ouverte du camion, il déclencha le haut-parleur.
« Stéphane Tranchet, je suis Franck Charcot, commandant de la brigade criminelle de Paris. On peut parler ?»
Un temps. Puis la voix jaillit de quelque part. Les volets étaient fermés, mais il avait dû laisser une fenêtre entrebâillée.
« Ma surprise au CDC, t'as plu ?»
Le chef d'élite de la BRI désigna une partie de la baraque à ses hommes. Le canon de l'arme d'élite pivota sur la droite, vers le haut. Charcot, lui, baissa le mégaphone. Il n'en avait finalement pas besoin.
« T'es la pire ordure que je connaisse, Tranchet. Tu mérites de crever, et je ferai rien pour empêcher les gars en position de te coller une balle au milieu du front. »
Écarquillement des yeux, murmure autour du commandant. Les hommes de la BRI se regardèrent sans comprendre. Le cloîtré, lui aussi, devait se dire que ça ne se déroulait pas de cette façon dans les séries télé, car la réplique tarda.
« Qu'ils viennent ! Qu'ils viennent, putain ! J'ai plus rien à perdre ! T'as jamais rien eu à perdre ! Une vie de merde dans ce trou, un métier minable alors que Victor et l'autre, eux, ont réussi. Ces deux types se sont servis de toi comme d'un vulgaire boucher. Peut-être, mais Victor fait moins le malin à l'heure qu'il est. »
Charcot y était allé au bluff, et ça avait fonctionné. Il jeta un coup d'œil à ses coéquipiers. Une réponse, deux renseignements. Et d'un, Tranchet n'était qu'un exécutant, et de deux, le troisième larron était toujours en vie. Il réfléchit aussi vite que possible. L'objectif était simple. Récolter des infos tant que le moulin à parole tournait. Quand Tranchet aurait basculé, ce serait trop tard.
Pourquoi lui? Pourquoi avoir tué Victor et pas l'autre? Parce que c'est l'autre qui me l'a demandé, pauvre con!
Un rire éclata dans la nuit. Un vrai ululement de chouette.
Ça aurait pu mieux se terminer!
Gueula la voix.
« Mais il a fallu que toi et ta bande de connards vous foutiez votre nez dans nos affaires. J'aurais dû te fumer dans la cabane !»
Le ton changeait. Charcot le sentait à plein nez. La fin de la discussion approchait déjà. Il devait tenter le tout pour le tout.
« Qui est le troisième? Donne-moi son nom !»« Ben voyons! Tu crois avoir pigé? La faille? Victor? En fait, t'as rien compris du tout! Tu ne sais pas pourquoi tout ça existe !»
« Tu as raison. On est loin d'avoir tout compris, »
confirma le flic.
« Et si tu nous aides, je te promets que le juge en tiendra compte. Tout n'est pas perdu pour toi. Alors réponds-moi. Qui est le troisième homme ?»
Silence. Attente. Le chef de groupe de la BRI patienta encore 1 minute. Puis il fit signe à ses gars.
« C'est terminé. On y va. Vous ne bougez pas. »
Lampes éteintes. Lunettes infrarouges. Bruissement de semelles. Les soldats de plomb se mirent en formation et s'engagèrent dans l'allée. À ce moment-là, la porte s'ouvrit face à eux. Stéphane Tranchet avait gardé son tablier ensanglanté et enfilé son masque de mort. Il tenait un flingue dans chaque main. On aurait dit un personnage grotesque échappé d'un film d'horreur. Déterminé, il courut droit devant lui en tirant et en hurlant, provoquant des gerbes d'étincelles sur les boucliers. Brusquement, ce fut comme si on rembobinait la scène. Il recula de 2 mètres, frappé en pleine poitrine par un projectile 44 magnum, craché à 450 mètres par seconde. L'énergie qui se déploya alors dans sa cage thoracique agit comme une onde sismique. Elle fit exploser son cœur.